Bienvenue à Objectif numérique, 11e épisode qui portera sur la vidéo avec un appareil photo réflexe. Dans cet épisode, nous avons évidemment des réponses à vos questions. Nous vous présenterons des applications vidéo amusantes pour appareils portables. On a aussi des accessoires pour tourner de la vidéo avec un appareil photo DSLR ou réflexe. Et nous vous présenterons des avantages et désavantages de la vidéo avec ce type d'appareil versus les caméscopes, en plus de vous fournir quelques trucs. L'équipe habituelle est présente, François Blanchette.
Salut Stéphane.
Salut et Christian Jarry.
Bonjour Stéphane.
Et moi-même, Stéphane Vaillancourt. Et nous avons un invité, Johan Carl Whistle.
Honoré d'être ici.
Bon, et merci de ta présence. Johan, qui est dans Les Mystérieux Étonnants, un podcast qui est diffusé tous les lundis.
Oui, sur Choc FM, où vous pouvez aller sur mystérieux.com si vous voulez nous voir en vrai, parce que vu que c'est en direct, on se filme.
Intéressant. Non, je connais bien le podcast pour y être allé deux fois. tu fais partie du collectif RKSS.
Oui, Roadkill Superstar, mais on n'utilise plus le terme. Oui, effectivement, on fait des courts-métrages depuis maintenant plusieurs années. Et on s'apprête à faire un long métrage.
Oh, parfait. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des détails un peu plus tard dans l'émission?
Oui, il n'y a pas de problème. Je suis un livre ouvert.
Excellent. Dis-moi donc, qu'est-ce qui a déclenché ta passion pour la vidéo? Ben, tu fais un peu de photos aussi, je crois.
Oui, je fais un peu de photos, plus comme un hobby. Je me considère très loin d'un professionnel, mais je fais beaucoup plus de vidéos. Mais qu'est-ce qui a déclenché ma passion de vidéo? C'est définitivement le cinéma. Mes parents sont des gros, gros fans de cinéma. Et moi et ma sœur, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, puis pas juste du film d'Hollywood, mais du film vraiment... Tu sais, on a vu El Topo très jeune, pour vous donner une idée. Donc, on a eu quand même une culture du cinéma depuis notre très jeune âge.
Parfait, merci. On va maintenant enchaîner avec une première question qui nous vient de Mathieu, et Christian va y répondre.
Donc c'est ça, on a un auditeur français, Mathieu, qui nous pose la question comme quoi il y a un Olympus E620, un 4 tiers, des appareils hybrides. Il se trouve un petit peu limité dans les conditions de faible luminosité, puis il veut savoir est-ce qu'il est mieux de passer un prochain boîtier de la série E, ou ben non, peut-être dans un autre style 4 tiers, etc. Là, d'après ce qu'il nous dit, il a exclu de passer au réflexe pour le moment. Moi, j'ai fait un peu de recherche. Ça tombe bien d'ailleurs parce que j'avais dans mes mains la PEN EPL5, qui est
un super micro-cartier. Beau nom de caméra en passant.
Oui, définitivement. Bon, c'est pas tout le monde qui est doué pour les noms de caméra, là, disons que. Mais non, c'est ça. J'ai fait un peu de recherche par rapport à ce qu'il demandait. Le modèle le plus récent a définitivement une grosse amélioration pour ce qui est de la performance en basse luminosité.
Le plus récent, c'est le EPL5.
Exactement.
Qui vient d'être lancé par Olympus.
C'est ça. Il semblerait qu'il y ait une assez bonne différence. Par contre, on est quand même relativement assez loin de qu'est-ce qu'un réflexe est capable de faire. Oui, une différence, mais est-ce que ça vaut la peine de vraiment mettre à jour? Ça va-tu vraiment avoir une si grosse différence que ça? D'après ce que j'ai lu, non, malheureusement. Le problème étant que c'est toujours la même grosseur de capteur. Donc, à un certain moment donné, il reste qu'il y a des limitations physiques que tu peux pas dépasser. Il y a rien à y faire. La seule façon, c'est de passer à un capteur plus gros. Mais comme lui a dit, le réflexe l'intéresse pas, probablement pour ce qui est de la grosseur et tout ça. Mm-hmm. Par contre, j'ai trouvé deux exemples qui pourraient être intéressants pour lui, qui est les Sony NEX 3 et 5. Okay. J'ai choisi ces deux-là parce qu'il y en a de plus que ça. Il y a la 7 puis il y a la
6 aussi.
Mais c'est beaucoup plus dispendieux. Là. On parle d'environ 1000$ chaque là, et plus. Là. Fait que on n'est pas vraiment dans la même catégorie.
Mais
là.
La NEX 5, j'en ai entendu beaucoup parler puis c'était très bien coté là, comme appareil.
Parce que la grosse différence majeure, c'est qu'on c'est un capteur de DSLR qu'il y a dedans. Mm-hmm. Alors, performance en basse luminosité qui est très supérieure grâce à ça. Mm-hmm. Bon, le problème, parce qu'évidemment, il y a toujours un problème. Il y a quelque chose, tu sais, on prend un côté, il y en a un bon, il y en a un mauvais. L'ennui, il y a beaucoup moins d'objectifs du côté Sony. Quand je parle de beaucoup, là, c'est pas mal moins. Je pense qu'il y en a j'ai pas le chiffre exact, là, je crois une dizaine pour ce qui est de l'Impus qui sont compatibles. Sony, c'est 6 ou 7 qu'il y en a en ce moment, fait que c'est pas... Ils ont du chemin à faire de ce côté-là, Sony, pour le moment. Fait que quand t'es tout équipé, je sais pas qu'est-ce qu'ils devraient faire. C'est vraiment... C'est une question de choix, c'est une question d'argent. Tu sais, il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans l'équation.
Mais je sais que moi, au départ, j'étais un peu rebuté par les DSLR. Je trouvais ça gros. Je trouvais ça encombrant parce que je m'étais acheté... En fait, je m'étais acheté un appareil vraiment hybride, un bridge qu'on appelle. Et je trouvais ça gros déjà au départ et j'avais même pas d'objectif à changer.
Là. Non, c'est ça.
J'étais retombé dans le compact. Puis là, j'étais malheureux. Là. C'est pour ça que j'ai dit non, finalement, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille dans le réflexe pour vraiment... améliorer ou exploiter plus de possibilités avec l'appareil. À un moment donné, on frappe un mur. Puis,
c'est ça, il faut faire la décision. On n'a plus le choix à un certain moment donné. Ouais. Mais je trouve, en tout cas, c'est peut-être aussi parce que moi j'ai une 7D, là, fait que j'y trouve petite, là, mais la T3i, je la trouve pas si grosse que
Non, elle n'est pas grosse. Comparée même à la T4i, la T3i n'est pas grosse.
J'ai une 60D, mais j'ai... bonjour, c'est Johan.
Oui.
j'ai une 60D, mais j'ai aussi une T2i. Mm-hmm. Est-ce que la grosseur, est-ce que c'est équivalent avec la T3i? La T3i?
Je pense que c'est pas mal la même grosseur. Ouais, T2i, la T2i, T3i sont relativement semblables. Je me demande même si la T3i est pas un petit affaire plus petit. Ah, il avait fait des efforts pour essayer de les rapetisser. Je sais pas, là, faut que je vérifie, là, mais à ma connaissance, il n'y a pas...
Ça pourrait être un bon appareil réflexe. En tout cas, peut-être essayer en magasin, essayer la prise en main,
voilà,
pour voir si finalement la première impression était peut-être faussée juste par l'aspect de l'appareil, puis que peut-être qu'un coup qu'on prend l'appareil en main, c'est peut-être moins lourd qu'on s'imaginait, peut-être moins encombrant, puis ça peut peut-être ouvrir des portes.
Parce que sinon, bon, il y a toujours y a la Nikon J2 aussi qui peut devenir intéressante. Oui. Elle a le même problème que la Sony, pas assez d'objectifs. Y a quand même, tu sais, des options pour tout ça, mais est-ce que la personne va vouloir se débarrasser de tous ses objectifs pour passer à d'autres choses? C'est sûr que c'est pas un choix qui est facile. Je sais pas. Exemple, si quelqu'un qui décide de passer de Canon à Sony, s'il y a le moindrement des objectifs qui sont respectable dans le sens, là, pas trop de base ou un petit peu, bon, on peut les revendre, pas trop perdre d'argent. Dans le cas des 4 tiers, je sais pas le marché usagé, c'est assez récent, j'en ai aucune idée si ça vaut la peine, si on peut récupérer un peu de son argent raisonnablement avec ça. Mm-hmm. Fait que le choix est pas facile. Reste que bon, il semble, comme je disais, il y a une amélioration avec la plus récente, la EPL5, fait que ça peut être quelque chose de très respectable. Moi, j'ai bien aimé la 3, la EPL3 était bien. Je me dis, si la 5 est mieux que ça, moi j'ai pris des photos en spectacle à ISO 1600, je vous dirais pas qu'il n'y a pas de bruit, il y a du bruit, mais tout dépend de ce qu'on veut en faire. Mmh. Toujours le même mot de affaire. Pour moi, ce que je voulais faire, c'était parfait. J'ai retravaillé un petit peu en post-production, les photos sortent très très bien, je suis très satisfait. Mmh. Est-ce que ça va être correct? Sûrement. Mais j'ai remarqué aussi que la vidéo est un petit peu... c'est moins...
Ben, tu feras ta critique vraiment important.
Non, mais tu sais, c'est juste pour dire entre la photo et la vidéo, il y a quand même une marge entre les deux. Pas tout à fait la même chose. J'ai remarqué qu'il y avait plus de grains du côté vidéo que du côté photo.
OK.
Algorithme de production, de compression, quelque chose, j'en ai aucune idée, mais trouver la performance était un peu moyenne rendue de ce côté-là. Mais bon.
OK.
Fait que Stéphane a dit quelque chose qui est, à mon opinion, très respectable. Allez en magasin, essayez-les. Puis, pas d'autres méthodes, vraiment. De toute façon, anyway, si vous voulez savoir si la performance est bonne, en magasin, c'est une bonne place parce que généralement, c'est pas la luminosité qui est la meilleure au monde. Fait qu'on est capable déjà de voir une petite idée de ce que ça a l'air. Fait que ça reste la meilleure des méthodes. Allez en magasin, essayez-les, vous allez le savoir tout de suite.
Parfait. Bon, et maintenant... Christian a eu une idée aussi. On va faire un petit sondage sur le site web, sur le blog, pour savoir avec quoi vous, les auditeurs, shootez, avec quoi vous prenez des photos. Donc, vous aurez différents choix, mais si jamais vos choix ne se retrouvent pas parmi la liste, vous pourrez toujours laisser un commentaire aussi avec des détails là, pour lister la marque et modèle de l'appareil avec lequel vous shootez.
Puis dans le cas présent, le sondage, c'est pas l'appareil spécifique qu'on va vous donner. Non, c'est plutôt des catégories. Est-ce que vous avez un point and shoot, un DSLR, un bridge, etc. C'est ça qu'on est curieux de savoir un peu ce que nos auditeurs ont.
Oui, oui. Donc, si le cœur vous en dit, on vous invite à aller sur le blog pour aller répondre à ce petit sondage. Maintenant, on va avoir un petit segment sur les applications vidéo pour iOS et Android. On a des applications qui permettent de faire des cours vidéo, en fait. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de Cinemagram. Il y a l'application aussi Kinotopic. Ça permet de faire des vidéos, des séquences vidéo de quelques secondes et dans le cas de Cinemagram, d'animer seulement qu'une portion de l'image, une portion de la vidéo en tant que telle. Donc, toute l'image reste fixe et on peut animer, admettons qu'on prend le visage de quelqu'un, on peut animer seulement la bouche ou seulement les yeux. Alors, on fait une sélection avec le doigt là, sur l'écran de la zone qu'on veut animer ou qu'on veut, en fait, que la vidéo passe vraiment dedans. Et puis, tout le reste est une image fixe. Donc, ça peut donner des effets intéressants.
J'ai vu quelque chose de très joli qui était une fenêtre d'automobile avec des gouttes d'eau.
Okay.
Puis, il y avait tout était fixe, sauf une seule goutte d'eau qui tombait.
Oh, intéressant.
C'était le fun parce que ça avait l'air vraiment d'un vidéo. Ça aurait pu être un vidéo, mais là, c'est quand tu la vois recommencer tout le temps, tu fais comme, ouais, OK, là t'as compris, mais... Sinon, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai vu, c'était quoi? C'était, mettons, comme une foire. Je pense qu'il y avait juste la grande roue qui tournait ou des choses comme ça. Tu sais, c'était...
Ça peut donner vraiment... On peut laisser libre cours à son imagination. Ça donne des trucs artistiques. Et il y a des trucs un peu moins glorieux, comme une personne qui va se mettre à loucher, mais elle va seulement sélectionner un œil pour être animée. Donc, elle louche seulement d'un œil.
Ah oui, ça...
C'est un peu méchant faire ça, par exemple.
C'est ce genre de truc bête un peu, mais c'est rigolo, c'est drôle.
Mais à quel point le logiciel est précis?
C'est pas super précis parce que c'est avec ton doigt que tu vas aller sélectionner une zone dans l'écran. Donc,
c'est pour ça que je me posais la question.
Plus ton écran est petit, plus la zone va peut-être être grande, si on veut, ou moins précise. Mais c'est simplement pour s'amuser. C'est des petits clips de peut-être 10 secondes maximum. Ça peut même être plus court. Puis après, ça joue en boucle. Mais on peut donner un effet. On peut le faire aller de reculons, donc reculer dans le temps. Il y a des petits trucs comme ça intéressants. Puis, je crois que François aussi en connaissait une.
Mais en fait, j'utilise une application qui s'appelle Light. En fait, je me rappelle pas où j'ai découvert ça. J'ai vu ça sûrement sur un site quelconque. Quoi. Les internets, sûrement.
Ouais, sûrement.
Ça doit être ça. Puis, ça ressemble beaucoup à ce que tu viens de décrire. La différence, je dirais, c'est que lui, tu vas capter 10 secondes de vidéo. Il va l'accélérer en à peu près une seconde, ces 10 secondes-là. Puis, il y a une espèce de petit effet, là. C'est pas stroboscopique, mais c'est quasiment blendé, là. C'est un petit peu flou comme effet.
Mais en fait, c'est qu'ils vont prendre peut-être une image par seconde qui a été filmée, je pense.
Non,
que c'est...
il capte carrément les 10 secondes.
Oui, oui.
Mais il accélère ça après.
OK.
Il passe ça en 10 secondes, en une seconde à peu près ce qui était capté en 10. Fait que non, toutes les frames sont là. Peut-être qu'il en saute quelques-uns, mais ça passe très rapidement. Ça donne une petite animation. Puis bon, mais tu partages ça sur les réseaux. Évidemment, il y a d'autres gens qui font aussi des trucs. Il y en a qui sont assez originaux dans ce qu'ils font. L'idée, c'est de pas trop bouger la caméra parce que quand même 10 secondes à remettre en une seconde, si tu bouges un peu trop, ça va donner des shots mal de cœur. Fait que idéalement, tu veux garder la caméra fixe puis filmer de quoi d'original. T'sais. Puis c'est des petits bouts de ta vie que tu veux partager tout simplement. Mais je trouve ça bien comme application. C'est un petit peu différent de Cinemagram puis l'autre que tu mentionnais, là, Kinotopic. Ouais,
donc,
c'est ça.
Comme d'habitude, ben, les liens vont être dans les notes d'épisode, vous pourrez aller les consulter ou faire tout simplement une recherche, soit dans l'App Store ou sur Google Play.
S'il y en a qui essayent Light, vous pouvez regarder ce que j'ai fait. Mon nom, c'est Frank. Aussi simple que ça comme username.
Il
pour la première
pris.
Fois,
wow.
Il n'était pas... Dans tous les sites que je m'inscris, j'essaie toujours d'écrire Frank. Il est toujours
pas
l'avoir
sous
Light, il y en a juste un. C'est moi. Merci beaucoup.
Parfait. Et bon, maintenant, on va aborder, avant de vraiment aborder la question de vidéo et tout ça, Christian va nous parler un peu d'accessoires et de trucs qui entourent le monde de la vidéo.
Dans le fond, avec la vidéo, malgré tout, avec ta caméra, il y a plusieurs choses qui sont manquantes. Le meilleur exemple, je pense le plus facile, c'est le son. Parce que, un, c'est souvent du son mono qu'on a. Pas très directionnel, pas très avancé, etc., ben, il se vend, heureusement, beaucoup d'accessoires pour ça. Le caméraman va pouvoir probablement plus m'aider là-dessus. Moi, la suggestion que j'ai vue le plus souvent, c'est de prendre quelque chose complètement à part avec des micros sans fil, etc., et de synchroniser le son par après.
Oui.
Plus ben, simple à faire comme ça.
Ben moi, ce que je peux dire, c'est qu'on s'est fait prêter aussi un micro de Sennheiser, un micro qui se met dans le sabot, le hot shoe. Et qui va permettre d'enregistrer
mais du c'est bon, ça, oui. un bon c'est, son. Là. J'en ai vu, c'est ça, puis j'en ai un aussi... qui était le... Moi, il y a Zoom aussi qui en font, le H1, qui était quand même assez intéressant parce que lui, ce qui est le fun, c'est que tu peux l'utiliser comme micro ordinaire si tu te promènes avec, mais il est fait que tu peux quand même l'accrocher sur ton hot shoe.
OK.
Fait que j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Puis il y a comme les deux branches qui permettent de quand même assez... comment je pourrais dire...
d'obtenir un son stéréo.
Exactement.
Mais ça, c'est un enregistreur numérique, ça?
Oui.
OK. C'est pas juste un micro, c'est...
Non, c'est un enregistreur numérique, carrément, lui. Fait que, tu sais, je trouvais ça quand même intéressant. J'ai un de mes collègues que lui a acheté, comme tu disais, là, ça va vraiment sur le hot shoe, ça se plug directement dans la caméra et qui capte automatiquement ton son. Ça aussi, ça peut être intéressant.
Mais le problème avec le micro qui s'installe sur le hot shoe, qui va se brancher dans la caméra, c'est que là, tu peux pas mettre d'écouteurs pour écouter parce que ça va...
C'est vrai.
Et c'est un énorme problème.
Ben, tu peux, mais ça te prend, mettons, comme la Canon 1DX qui te donne maintenant ça. Mais bon, Canon EDX qui est comme 5-6 000 $, là, disons que c'est pas super...
c'est pas à la portée de toutes les bourses.
Je me demande si la 5D Mark III l'a pas aussi.
OK. Mais bon, on reste dans le haut de gamme.
C'est le haut de gamme, malheureusement, exactement. Là. Mais c'est vrai, t'as tout à fait un point. Moi, dans le fond, quand on utilise le hot shoe, c'est plus pour, mettons, la famille, puis tout ça. Lui, mon collègue, lui, c'était pour ça. Ce qu'il s'est rendu compte, c'est que... Regarde, là, il est pas loin, puis le son, il prend tout, qu'est-ce qu'il y a autour, c'est là. Ça, fait que donc, c'était vraiment pas bon. C'est... Tandis qu'au moins, un peu directionnel, ben...
Puis avec peut-être une mousse autour c'est pour
ça.
Couper le
oui,
vent.
Oui, tout à fait, je le confirme, ça. C'est ça. Fait qu'au moins, ça avait quand même un petit peu d'intérêt par rapport à ça, parce que c'est très limité, sinon, là. L'autre chose aussi, bon, là, c'est sûr qu'il y a... Une autre des limitations, c'est, bon, le viewfinder, là, le viseur, ben, c'est pas parfait... Il y en a beaucoup qui se vendent. Ils appellent ça, ben, c'est des LCD viewfinder ou des moniteurs. Je pense que t'en as un, d'ailleurs.
J'en ai un pas électronique. En fait, j'ai une loupe qu'on applique sur le viseur. Il y a aussi la version électronique, évidemment, qui est un peu plus chère.
Mais c'est quand même pas si mal. J'en regardais quelques-uns. J'en ai vu un à 100 $, ce qui est quand même pas si mal. Il y a des moniteurs. Bon, les moniteurs, c'est un peu plus cher, là, bien sûr. Là.
Toi, tu parles du viseur loupe. Là.
Ouais, exact.
Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est vraiment pour l'avoir essayé. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment
très
pratique.
Bien.
Ça aide beaucoup à faire le point en vidéo, il faut le dire. Le focus, ça ne fait pas automatique, sauf sur certaines nouvelles caméras DSLR. Je pense que la fonction autofocus...
C'est moyen,
bon, mais
par
on
ne
veut pas vraiment utiliser ça. Là.
C'est bien, bien moyen. C'est généralement relativement... C'est lent. Puis c'est avec la contraste détection là avec les fait que, tu sais tu le vois là tu le vois ça réajuster et tout ça c'est pas encore vraiment au point là comme tu dis, c'est beaucoup mieux de le faire le focus
bon,
toi-même
si on fait de la vidéo moindrement sérieusement on travaille manuellement avec l'objectif
juste si tu veux de la profondeur de champ si tu veux travailler ton image faut que tu joues avec ton image faut que tu joues avec ton objectif là
ouais.
C'est ça. Puis
tu
justement,
peux pas faire confiance à un ordinateur.
Non, en effet. Puis justement, tu tombes dans profondeur de champ. Moi, les premières fois que j'ai filmé avec ma 7D, j'avais un objectif 50 000 m 1.4. Puis justement, je regardais ça, puis j'étais frustré parce
c'est
que là...
après le trouble.
Oui, parce que ta profondeur de champ est tellement petite que le moindrement que la personne bouge, t'es plus au focus. Fait que là, au début, je connaissais pas assez ça, fait que j'étais frustré, puis je comprenais pas comment ça marchait, etc.
C'est difficile au début, moi
c'est
aussi.
Très dur.
J'ai une 2.8, puis même à 2.8, là, souvent...
Mais le truc, c'est que si tu montes ton ouverture, tu te causes moins de troubles,
oui,
justement.
Oui, absolument. Mais c'est ça que c'est ce qu'on fait après une ou deux tentatives frustrantes. Là, on dit « Oups! » On va fermer un peu le diaphragme.
Donc,
quand
tu filmes à 1.4, tu filmes pas quelque chose qui bouge. Là.
Non, c'est des sujets immobiles.
Ouais. C'est des entrevues assises, puis une personne qui passe pas son temps à avancer puis reculer sur sa chaise. Là, parce qu'à 1.4, on parle d'une différence entre le nez et les yeux.
C'est
là,
ça. Puis c'est intéressant parce que justement, je suis en train d'écouter la série Fringe, puis je sais pas bon c'est comment ils sont pris, c'est avec quelle sorte de caméra, mais on a des vues comme ça où tu as une personne en avant-plan, le focus est fait sur lui, puis la personne est en arrière-plan et hors focus. Puis là, tout à coup, on refait le focus sur la personne en arrière-plan, puis en avant-plan, ça devient hors focus. Fait que, tu sais, on passe de l'un à l'autre constamment comme ça. Mm-hmm. Sauf que, comme tu dis, les deux personnages sont immobiles. Ils restent debout.
Oh, oui.
Fait que ça se fait, là. Mais sinon, quand ils bougent, c'est impossible.
Ouais, mais, ça,
mais ça, c'est pas si compliqué que ça à faire. Ça te prend juste un assistant caméra puis un follow focus.
C'est ça, j'allais dire.
C'est, il y a quelqu'un à côté de la caméra qui est là avec un petit bidule qui s'appelle un follow focus. Puis il joue entre les deux focus. Il y a des petites lignes qu'il a faites.
Mm-hmm. Sa job à lui, c'est de prendre les marques, la distance entre le capteur et le sujet. Puis, aux répétitions, avant de tourner la scène, ben il prend des notes. OK, ça, c'est à tel endroit. Je vais faire ma marque sur le follow focus.
Puis y a
c'est
sûrement...
comme ça que ça se fait depuis longtemps. Ça, c'est du cinéma.
Puis, il y a des marques sur le plancher, puis vous bougez pas de là, les acteurs.
Ouais.
Puis...
ben, le moins possible. Ouais. Mais ça. Un bon follow focus, un bon...
assistant cam.
Ouais. Premier assistant qui fait ça d'habitude.
Oui.
Il va être capable d'improviser, puis il va être capable de suivre. Là. C'est sa job, tu sais, de garder ça au focus. Mais 1.4, même pour lui, là, ça va être tough. Là,
c'est ouais. Marques, ouais. Là.
1.4, c'est très, très, très mince comme profondeur de champ. Là,
c'est ça. Puis, ben, des choses justement qui te permettent d'aider à faire ton focus, etc., ben, c'est les grosses rigs, les grosses. Je sais pas comment le terme français qu'on pourrait vraiment appeler ça, les rigs, les...
Tout le monde appelle ça une rig.
Ouais, c'est ça.
C'est
ça,
un
support de caméra.
Support d'épaule. Voir,
un support d'épaule de caméra. Tiens, c'est bon, c'est pas pire.
Merci,
vous,
en passant.
Oui, hein? Vous regarderez les photos, c'est là on parle de quelque chose qui est beaucoup plus développé, là, mais également beaucoup plus cher, là, c'est des 700-800 000 $ dépendant de combien. Là. Moi, j'en ai trouvé quelques-uns quand même pas si mal. Là, des Red Rock à 600-700 $ qui sont quand même pas pire côté. Est-ce que j'ai vu des bons mots avec ça. Là. Mais c'est ça, on a pas besoin de faire le focus en touchant à l'objectif. On a des roues qui nous permettent de faire le focus.
C'est le follow focus.
C'est ça.
C'est ça qu'on parlait.
C'est ça. Puis l'autre chose aussi que j'ai vu qui peut être intéressant pour ceux qui décident de faire du vidéo, il y a le micro-logiciel Magic Lantern. Qui existe pour plusieurs caméras, la 5D Mark II, la 60D, la T2i, la T1i, la 600D et maintenant la 7D. C'est très très récent, ça fait quelques semaines qu'ils l'ont sorti. Ça rajoute beaucoup de choses, entre autres, ça te permet de voir les levels de ton, le niveau de ton son à l'écran, beaucoup d'options qui sont pas disponibles. Moi, je m'y connais pas beaucoup, là, ils parlaient de Zebra, quelque chose, en tout cas, je suis pas un expert, mais pour ceux qui font du vidéo, il y a beaucoup de monde aime beaucoup ces micro-logiciels-là.
Mais tu m'envoies super heureux parce que pour ma 7D, je vais pouvoir aller chercher ça. Puis pour ce qui est du Zebra, pour votre information, c'est une façon de mesurer l'exposition de la caméra électroniquement. Si on, avec le Zebra, on peut savoir si on a la bonne exposition. Ça va nous indiquer à l'aide de petites barres diagonales dans la zone qu'on sélecte si on est bien exposé. Par exemple, la peau, elle a une valeur IRE sur l'échelle vidéo de 70. Une échelle qui est de 0 à 100, ça, on va jusqu'au blanc, c'est 100. 0, c'est noir. Donc, à 70, on a la peau qui se tient là. Puis, on peut setter le Zebra pour dire, je veux que tu me fasses des belles petites barres diagonales à 70, qui est la peau. C'est une façon de savoir si on a la bonne exposition vidéo. C'est vraiment un outil... Ben pratique.
Ouais, c'est très important. Moi, je vois notre directeur photo qui... c'est une des choses qui vérifie énormément. Là. C'est...
Oui. Oui, oui, oui.
Parce que toi personnellement, tu es directeur photo.
Oui. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est plaisant.
Donc, bref, c'est un ajout qui est quand même assez intéressant. Bon, regarde, je ne rentrerai pas dans les détails par rapport au fait que, bon, si vous utilisez ça, vous pouvez défaire la garantie de votre caméra. C'est très bien marqué sur le site.
Ça annule la garantie.
Mais c'est un firmware.
C'est un firmware, c'est okay, ça.
Bon. C'est un peu comme jailbreaker son téléphone.
C'est exactement la même chose. Ouais. C'est exactement la même chose. Fait que...
Oui, oui, désolé, vas-y. Je ne vais pas interrompre, mais si justement tu installes un nouveau firmware, est-ce que tu peux désinstaller ce firmware-là pour un autre? Est-ce que tu peux remettre celui qui est.
Probablement.
Excusez l'anglicisme stock. Donc, techniquement, c'est pas terrible d'installer ça parce que tu peux revenir à la vieille version. Donc,
c'est comme n'importe quelle chose. C'est toujours. Si une des fonctions qu'il y a dans le micro-logiciel cause un problème à ta caméra, c'est là que tu peux avoir un problème. C'est là que... Ouais. Parce que moi, je vais donner l'exemple. Mon iPhone, je l'avais justement jailbreaké. Puis bon, le problème majeur étant que quand il rebootait, puis c'est arrivé au moins 3 fois quand il était jailbreaké, si j'avais pas l'ordinateur à côté de moi, j'avais plus de téléphone.
Mm-hmm.
C'était ouais, comme assez fatigant. Fait que j'ai décidé justement, j'ai effacé le micro-logiciel, j'ai remis celui de base, puis là, ben, depuis ce temps-là, j'ai plus de problème. Là. Mais j'imagine que tu peux faire la même chose avec la caméra. C'est juste une question de mettre à jour. Fait que je vois pas en quoi que ça l'empêcherait de le faire.
Non, surtout qu'une caméra, c'est pas tellement. Tu peux pas tellement changer de truc. T'sais, ils sont toutes faites pareilles. Exact. Si ça a été testé. Le micro-logiciel sur d'autres caméras. Moi, j'aurais pas peur d'essayer. À moins que tu sois bêta-testeur.
Le pire qui peut arriver, ben c'est toujours ben c'est des erreurs. Je veux dire, si, mettons, tu fais une photo, puis ta photo, justement, elle s'écrit pas sur ta carte de mémoire. Il peut avoir des bugs, des affaires. Peut-être que ton micro-logiciel va faire que ta caméra se ferme tout seul ou des choses de même. C'est pas quelque chose qui a été fait par la compagnie, qui a été testé là, pendant des heures, des dizaines d'heures, des centaines d'heures. C'est sûr et certain que tu peux pas t'attendre au même support, aux mêmes affaires. Fait il y a probablement des choses avec lesquelles tu es obligé de vivre. Mais en même temps, Magic Lantern, pour la 5D, ça fait longtemps que ça existe. Mm-hmm. Là, ils viennent juste de comprendre comment le passer pour la 7D. Je me demande si ça a pas rapport avec la version 2, justement, qu'ils ont mis récemment sur la 7D. J'en ai aucune idée.
Ils ont vérifié les changements dans la mise à jour du micro-logiciel, puis là, ils sont allés exploiter
c'est peut-être
ça.
Je sais pas. En tout cas, j'en ai aucune idée. Je sais que je l'ai vu récemment passer. Je trouve ça intéressant de le mentionner.
En tout cas, j'ai bien hâte d'aller voir ça, moi.
Mais à toutes les fois que je vois un logiciel comme ça, qui améliore, on va se l'avouer, qui améliore un appareil électronique, je me demande pourquoi la compagnie elle-même, exemple Canon, qui voit ça, puis dit « Wow, ça l'améliore notre produit. Copions-le. » Mais on dirait jamais que cette initiative-là qui se fait...
Il n'y a pas une admission que quelqu'un a trouvé une meilleure façon qu'eux d'utiliser l'appareil.
Mais oubliez pas un détail non plus, c'est que Canon vend des caméras aussi.
Oui.
Fait que ils se cannibalisent eux-mêmes des ventes de quelque chose potentiellement. Fait que, tu sais, je sais pas jusqu'à quel point... Tu sais, vous savez comme moi, y en a que c'est... On ne voit que l'argent. On voit pas le potentiel des choses. Puis, ouais, mais si je fais ça, ça va peut-être me tuer de l'autre bord. Fait que, regarde, faut pas essayer de comprendre, là. Mm-hmm. Pourquoi que... Ce qu'on parlait, le micro-logiciel de la 7D qui me rajoutait plein de choses qui n'étaient pas là au départ. Pourquoi qui n'étaient pas là au départ? Mm-hmm. Il aurait pu les mettre, là. T'sais, c'est rien qu'une preuve qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous coupe de façon complètement arbitraire.
Ouais.
Et pourquoi? On ne le saura jamais, là.
Mm-hmm.
Je vais faire un parallèle qui est peut-être absurde, mais c'est le même concept avec les jeux vidéo, dans le fond. Quand à chaque année, tu sors un nouveau jeu de soccer, puis ils font juste déplacer les joueurs de chaque équipe, puis rajouter une autre petite fonction, puis tu te demandes pourquoi ils n'ont pas fait ça l'année passée.
Alors qu'ils pourraient juste vendre, mettons, à 3$, puis dire, ben on vous met à jour toute votre équipe, puis vous avez tous les nouveaux joueurs, les nouveaux changements, les affaires, puis honnêtement, le jeu, as-tu réellement besoin de changer? Non. Mais c'est toujours une question d'argent aussi dans ce cas-là. Là. Ils veulent en vendre, ils veulent, tu sais.
Et pour les auditeurs français, le soccer, c'est le football.
Ah oui,
oui, bien sûr, bien sûr.
Parce que pour nous, le football, c'est autre chose. Un autre sport.
Qui n'a rien à voir avec les pieds ou à peu près. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
Pour les bottés de dégagement, en fait.
Ouais, bon.
Je connais pas assez le football pour me prononcer.
Puis le ballon a l'air plus d'un œuf que d'un ballon.
Oui,
c'est comme un ballon de rugby, en fait. Donc, pour revenir au sujet...
Puis une dernière chose, j'ai vu aussi qu'il y a un autre micro-logiciel comme ça qui est disponible pour la Panasonic Lumix GH1 qui s'appelle P-Tool. Okay. Un petit peu comme le Magic Lantern qui permet des fonctions pour le vidéo un petit peu plus avancées. J'ai trouvé beaucoup de trucs sur un site que je mettrai sur notre site web. Beaucoup d'informations par rapport, justement, comme je disais, quel objectif qu'on peut utiliser, les rigs qu'on parlait, les micros, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. C'est pour quelqu'un qui veut se lancer. Mm-hmm. Que ça coûte pas nécessairement cher, il y a beaucoup d'infos.
Mais ces logiciels-là, on va se l'avouer, on va dire le vrai terme, sont « pirates » entre guillemets.
Oh oui.
Est-ce qu'ils ont un coût qui vient avec? Est-ce qu'ils vendent les
pas
logiciels?
Pas du tout.
Hein?
Non, ça
beau,
coûte
ça.
Rien. Oui,
c'est
coûte
des,
rien.
Ouais, ouais, des fanatiques de photos, des bidouilleurs qui s'amusent à...
Puis là, on s'entend, ça tue pas énormément leur marché. Au contraire, il y a peut-être des personnes qui s'achèteraient pas. C'est pour ça que je continue à dire que Canon devrait peut-être exploiter ce côté-là.
Oui, mais encore là, si, admettons, pendant 2 ans, tu as une Canon 7D...
Puis t'upgraderas peut-être pas.
Ben, c'est ça. Tu iras peut-être pas vers la nouvelle 5D Mark III ou vers la 6D qui vient de sortir parce que la 6D a telle option, telle caractéristique.
Ouais.
Là, si tu peux la débloquer de façon logicielle, ça peut-être te permettre de pas faire de mise à jour tout de suite de ton équipement.
Ben justement, les niveaux de son Je pense que c'est la 5D puis la 1DX qui la font maintenant.
Mm-hmm.
Fait que c'est justement, tu sais, je veux dire, ils ont rajouté ça dessus. Est-ce que ça en vaut la peine considérant tout le reste? Je suis pas sûr, mm-hmm. mais comme tu dis, c'est quelque chose qui a été rajouté. Fait que,
d'ajouter des niveaux de son?
Ouais.
Oh, c'est très pratique.
Oui, non, mais dans le sens que ce que je veux dire, c'est
est-ce que c'est
il aurait pu le faire sur n'importe quel autre, il pourrait probablement le faire à 60D, il pourrait le faire à... C'est rien qu'une question de micro-logiciel, c'est pas une question... Oui. Au pire des cas, ça se pourrait potentiellement, je sais que souvent les grosses ont deux processeurs. Fait que bon, mettons que celle-là, on pourrait l'excuser. Ben non, même pas parce que la 5D Mark II a juste un processeur. Fait que tu vois, c'est même pas ça, là. C'est vraiment une question de est-ce qu'ils décident de le mettre ou pas.
Mmh. Eh ben, mystère.
Mystère, c'est ça. On trouvera pas la réponse ce soir. C'est pas mal.
Peut-être
sûr.
Une question de pas tuer le marché de l'autre caméra qui l'a. Tu veux...
Mais ça prouve que c'est tout artificiel, ces affaires-là. Ah, c'est ben pas. Oui.
On est en mode capitalisme, là. Tu sais, je veux dire, c'est...
Oh, ouais.
c'est ça qui parle, là. C'est l'argent, là.
Exact.
Et c'est triste parce que ça. Techniquement, ce mode capitaliste-là retient la technologie, la retarde.
Ah oui, mais ça a toujours été, regarde Apple, ou
oui.
les itérations du iPhone.
Mais on s'entend, c'est un... Ben là, je vais tomber dans d'autres choses complètement. Ah, non, c'est un capitaliste qui est nouveau. Ce genre de capitaliste-là qui va au compte-gouttes pour mm-hmm. essayer de tranquillement l'augmenter, qu'on a déjà la nouvelle version, mais on va sortir une version quand même moins forte juste pour...
Tu veux-tu le meilleur exemple de ça? Tu peux-tu m'expliquer pourquoi moi j'ai 19 points d'autofocus sur ma 7D, mais que la 6D en a 9? 11, excuse.
Ouais, non.
Il y a pas de raison, là. Non. C'est parce qu'il voulait pas en mettre un nombre plus. Mm. Pourquoi? Je cherche pas la logique.
Pour se situer dans un autre créneau de marché.
Mais c'est tout de l'artificiel. Oh, il pourrait les mettre si ça l'attente. Je suis pas convaincu, moi, que ça coûte énormément plus d'argent que ça à mettre
ça. C'est peut-être une question de processeur ou de trucs comme ça pour gérer tout ça.
Puissant.
Ouais, j'ai aucune idée.
C'est ça, je te dis. Il y a un moment donné. Puis c'est parce que je mentionne cet élément-là parce que je l'ai lu dans beaucoup de critiques. Justement, mm-hmm. il y a beaucoup de monde qui disait ben, pourquoi la 7D a 19 points, mais elle en a 11? Je comprends pas, là. Ouais. Il y a comme pas de logique à ça, là.
Mm-hmm.
Je trouve ça dommage quand les compagnies nous font des choses comme ça. Il y a peut-être des raisons très, très spécifiques. On saura jamais, mm-hmm. mais. Je suis pas convaincu à 100%, disons.
Moi, j'ai l'impression que l'équipe de marketing est peut-être trop proche de l'équipe des ingénieurs.
oui, ça se fait très bien.
Bon, excellent. Ben, maintenant, pour toujours rester dans la vidéo, je sais pas, étant donné qu'on a deux experts en vidéo, on va en profiter pour peut-être, je sais pas, avoir quelques trucs ou avoir des avantages à faire de la vidéo avec un DSLR plutôt qu'un caméscope. Des trucs comme ça ou des anecdotes que vous avez à raconter, je sais pas.
En commençant, je suis vraiment pas un expert en vidéo. Je suis un réalisateur.
Okay.
Donc, je suis bon pour diriger des acteurs.
Donc, on t'a invité pour rien, finalement.
Exactement. Non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que, surtout du côté de RKSS, nous, on s'est entouré de personnes excessivement talentueuses. Mm-hmm. Que je parle de Jean-Philippe Bernier, notre directeur photo, ou nos assistants caméra, ou ben, je veux pas nommer les noms parce que je vais oublier quelqu'un, je vais m'en vouloir, mais tout le monde au niveau technique, c'est eux qui nous ont amené peut-être la connaissance. J'en connais un peu à force de côtoyer ces gens-là, mais je suis très loin d'être un expert. Ils ont leur métier, puis ils savent très bien ce qu'ils font.
Mm-hmm.
Ben, moi, je pourrais dire, pour aller du côté technique, si on est habitué d'aller avec un caméscope puis on tombe en DSLR, les façons de travailler sont vraiment différentes. C'est-à-dire, on apprend à faire, on a parlé tantôt avec Christian, on apprend à faire le focus pour commencer.
Mm-hmm.
Le caméscope s'en occupe tout seul. Tu sais, même en mode manuel, c'est mm-hmm. pas trop difficile parce que la profondeur de champ est pas importante.
Ouais.
En DSLR, on se rend compte qu'avec les lentilles et les capteurs qu'on a, c'est ce qui fait des belles images d'ailleurs, mais on a une profondeur de champ réduite, ça prend des aides à l'assistance au focus. Si c'est mm-hmm. pas quelqu'un qui le fait pour toi, là on parle de tournage un peu plus sérieux, là, quand on a un assistant caméraman qui fait mm-hmm. le focus.
Mm-hmm.
Bon, là si moi j'étais un gars qui filme, je sais pas, mes chums qui ont fait du skate au parc, puis je fais des shots avec ma wide angle, c'est super cool, mais là on se rend compte que hey, faire le focus, c'est pas évident, tu sais, c'est vraiment pas évident. En plus, quand il fait noir, c'est pire. Puis quand on n'a pas de viseur pour filmer ça, c'est encore pire, parce que là, on fait ça au travers de l'écran, pas au travers le viseur. Quand on est en mode vidéo, ben, c'est directement sur l'image de la caméra. Là.
Mm-hmm.
Il y a ça qui est difficile pour commencer. Après ça, ben la stabilisation. Une caméra 7D, 5D, du côté Nikon aussi, ils n'ont pas de stabilisateur en mode vidéo, sauf certaines lentilles qui l'ont, qui s'activent en mode vidéo aussi. Fait que ça, c'est le fun. Mais sinon, ils l'ont pas. Fait que ça prend, ce qu'on parlait tantôt, une rig épaule pour se stabiliser. Sinon, ça a l'air fou. C'est les shots, il faut que ça soit fait au trépied ou avec une rig épaule.
Mais tu es capable quand même d'être assez stable. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup filmé avec... moi, j'appelle ça des Kodak. Mais...
Ouais, moi aussi.
Mais c'est peut-être parce que j'ai beaucoup filmé. Mais il y a une façon de, même si c'est avec les mains, d'être quand même assez stable ou de donner juste un mouvement qui est comme intéressant. Ouais. Quand même.
Mais ça dépend de ce qu'on fait. On
ça dépend des personnes. Oh, oui. Ça dépend des personnes. Il y en a qui sont plus stables que d'autres, juste à tenir, qui ont des techniques. Tout ça, j'en regardais un que je regarde souvent, Digital Rev, sur YouTube. Le gars, justement, il s'est fait poser la question, comment tu fais? Tes vidéos sont stables. Puis il s'est fait filmer. Puis le gars, il n'y a pas de rig, il n'y a pas rien. Il la tient comme ça. Il est juste très, très bon pour garder ça. Puis oui, c'est sûr et certain qu'il y a le stabilisateur d'image sur ses objectifs, mais malgré tout, si tu regardes ses affaires, moi, quand j'essaie de tenir ma caméra longtemps comme lui, il arrive à le faire, à un moment donné, ça bouge, puis c'est pas stable. La personne est habituée, elle l'a fait souvent, elle connaît ses trucs, elle sait comment placer ses bras pour être confortable.
Je dirais que, sans me vanter, moi, je suis devenu quand même assez solide pour être très stable avec... en tenant la caméra, mais je pense que ça devient une habitude. Puis, comme tu dis, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas.
Tout à fait.
Mais je trouve que qu'est-ce que ces caméras-là ont amené énormément au cinéma, surtout au cinéma indépendant, c'est une démocratisation du cinéma. Mm-hmm. C'est que ça te permet d'avoir une caméra très, très, très performante, quand même. J'ai peut-être mis un trait de trop, mais à très bas prix. Après, tu peux aller te louer un kit de lentilles cinéma, un kit de lentilles 35, et tu peux tout à coup avoir une profondeur de champ. Tu peux filmer en anamorphique avec ces petites caméras-là. Tu peux faire beaucoup de choses et sans que ça te coûte énormément d'argent.
Sans dépenser 15 000 $ pour
une
caméra.
Oui, non, ça, c'est incroyable de voir. Moi, ça fait presque 20 ans que je suis dans le milieu, puis je vois des jeunes arriver depuis, je sais pas, je dirais 5 ans à peu près, qui commence avec... C'est la nouvelle école que j'appelle.
Oh, oui.
C'est assez incroyable. Il y a aussi l'autre côté. Je vois des directeurs photo, entre guillemets, là. J'en vois plein, là. Il y en a partout. Ah, moi, j'ai une 7D, j'étais un directeur photo, tu sais. Ils ont juste pas le sens pour raconter une histoire. Mais, tu sais, bon, ils sont capables de filmer, c'est vrai, mais il y a une histoire à raconter aussi quand on filme, là, tu sais. C'est pas juste... Là, on s'entend, si on filme une fête d'enfants, mais... l'histoire est là, tu sais. Mais...
Puis on va s'entendre aussi, la direction photo, c'est un art. Il y a une façon, tu peux faire des belles images ou tu peux même raconter quelque chose à travers ton image. Si tu es quelqu'un qui est très, très, très talentueux avec ton image et que tu es créatif, tu peux faire beaucoup en tant que directeur photo. Puis tout le monde qui s'appelle directeur photo, calmez-vous un peu.
Ouais.
Tu sais, il y a des réels directeurs photo. Comme j'ai eu la chance de travailler avec du monde excessivement talentueux de ce côté-là. Et ils vont t'amener avec des visions puis des concepts. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec justement ton concept, ton imagination. Donc, c'est des artistes. C'est de l'art, la direction photo. C'est quelque chose de très important au cinéma.
Tout à fait.
Ben, j'ai vu d'excellents films que le film était pourri, mais côté visuel, c'était extrêmement beau, c'était très réussi. Mais juste, mettons, comme 300 ou des enfants de même, du côté visuel, c'est super beau.
Ouais.
Bon, les mérites du film sont autres que ça, mais il y en a comme ça des films où le visuel parle beaucoup, beaucoup, mais ça prend plus que ça.
Oui.
Ça prend définitivement plus que ça.
Parce que tu regardes même des films comme The Devil de Ken Russell, qui est un classique du cinéma, énormément de l'histoire est racontée par le directeur photo. Il y a des images avec la lumière qui a été faite dans ce film-là qui sont incroyables. Donc, le directeur photo, c'est à 100% un des raconteurs, si vous me permettez l'expression, permettez l'expression, c'est une des personnes qui participe à la narration du film. C'est une place excessivement importante au cinéma. Donc, quand j'entends que moi, je suis directeur photo parce que ça fait 2 semaines que tu fais du vidéo... Non, tu sais.
Ouais, effectivement.
C'est pour ça que je fais pas de direction photo non plus. Parce que c'est un art, c'est quelque chose. Moi, j'ai mon art, j'ai qu'est-ce que moi je fais.
Mais en bref, ce qu'on pourrait, c'est ça, suggérer ou en tout cas donner comme truc à des gens qui commencent à faire de la vidéo et qui se disent, ben, j'ai une idée, je vais me faire un j'ai déjà un petit script de film, je veux commencer. il faut penser aussi aux angles de prise de vue, il faut penser à toute la base autour de ça.
Ouais, la lumière.
La lumière,
pour moi, c'est le plus important.
Ouais, ouais, ouais.
Le cadrage, oui, mais la lumière, c'est ça qui fait la différence.
Ouais. Même en photo.
Ouais, ouais,
la lumière, oui, ça va ensemble. Là.
Ouais. Une direction artistique, parce que tu peux avoir autant de lumière que tu veux, mm-hmm. mais si qu'est-ce que t'illumines est laid, ça va rester laid.
Ouais.
C'est très important d'avoir une direction artistique, une vision de qu'est-ce que tu veux que ça a l'air. Qu'est-ce qui est très important, surtout du côté de la réalisation, un storyboard. Ça, c'est excessivement important parce que ça va donner un outil visuel à toute ton équipe technique de savoir où tu t'en vas. Donc, le directeur photo va pouvoir avoir une vision de ta vision. C'est que faire un film, ça prend un village, dans le fond. Puis tout le monde a son métier, puis c'est comme vraiment de la coopération à tous les niveaux. Donc, le plus d'outils que tu as pour travailler avec tes amis, le mieux que tu vas faire. Donc, un storyboard, c'est excessivement important.
Merci, messieurs. Ça fut très enrichissant. Donc, Johan, où est-ce qu'on peut te trouver? C'est quoi tes projets actuellement?
On peut nous retrouver sur notre site web, rkss.com. On peut nous retrouver sur notre Facebook, notre groupe RKSS. On peut nous trouver sur Vimeo et sur YouTube. On a comme des channels. Si vous voulez voir les courts-métrages qu'on fait maintenant depuis plusieurs années.
D'ailleurs, tu avais T is for Turbo, hein, je crois, comme court-métrage. En tout cas, que moi, j'avais particulièrement aimé.
Moi aussi.
Avec le légendaire Yves Corbeil.
Oui, il faut voir ça. Vous n'avez pas vu ça? Excellent. Allez voir ça.
Mais ça nous a ouvert énormément de portes. Grâce à le court-métrage T's for Turbo, il y a un producteur de Nouvelle-Zélande qui a communiqué avec nous, qui nous a demandé ce que vous aimeriez prendre ce univers-là, mais en faire un long-métrage, parce que moi, j'ai vraiment aimé ça. Donc, on n'est pas fous, on a dit oui. Et de fil en aiguille, Jason Eisner s'est joint au projet, le réalisateur de Hobo with a Shotgun, qui est un film canadien quand même.
Oui.
Puis si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille aussi. Mm-hmm. C'est vraiment, c'est spécial. C'est pas pour tout le monde, mais vous allez aimer. Et éventuellement, là, on a trouvé notre productrice du Québec, canadienne, mais je préfère dire du Québec. Ça va être Emma Film, Anne-Marie Gélina, qui s'est joint au projet. Donc, l'écriture est avancée, le script est maintenant, on bidouille avec le script. Parce que RKSS, c'est pas juste moi, c'est Anouk Wissel, ma sœur, et François Simard, mon beau-frère. C'est un collectif, on est un groupe, on fait des films ensemble depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, les trois ensemble, bon, on est en train de se préparer là, au dépôt de Téléfilm Canada. Là. Donc, ça regarde très, très bien. Je dirais que c'est la fois qu'on était le plus proche de réellement faire un long métrage, mais comme je dis toujours, faut pas tuer l'ours avant de même l'avoir rencontré. Le cinéma, faut pas se faire de faux espoirs, parce que le cinéma, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'appelés puis très peu d'élus. Donc, faut garder la tête froide. Puis, si ça l'arrive, tant mieux. Ça semble être vraiment très bien parti pour arriver. Mais si ça l'arrive pas, faut juste continuer à travailler.
Eh bien, on te souhaite le meilleur.
Ben
oui, le meilleur des chances. Bon, alors, c'est déjà tout. Pour nous rejoindre, il suffit de nous envoyer un courriel à podcast@objectifnumérique.com, que ce soit pour un commentaire, une suggestion de sujet à traiter lors d'un prochain épisode, ou tout simplement pour poser une question. Sur Twitter, le compte s'appelle Au Numérique et nous avons une page Facebook ainsi qu'une page Google+. Le nom, c'est tout simple, Objectif Numérique.
Mais merci beaucoup.
Merci à toi. Merci François.
Merci Stéphane.
Merci Christian.
Merci Stéphane.
Et merci à vous de nous écouter. À la prochaine.